Eh bien, nous allons être ponctuels et commencer cette rencontre à 16h. Bienvenue à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce débat, cette rencontre intitulée Nouvelle Vague. Alors, nous allons partir, en effet, peut-être pour une nouvelle vague. En tout cas, déjà, de vous dire que j'ai énormément apprécié vos trois romans, Arnaud Dudek, Françoise Collet et donc Philibert Hume. Françoise Collet, vous nous proposez un très, très beau premier roman aux éditions Mialet Barreau qui s'intitule Vivante. Déjà, le titre nous en dit beaucoup. Arnaud Dudek, vous êtes là pour Le Cœur arrière, publié aux éditions Les Avrils, et Philibert Hume pour Roman Fleuve aux éditions des Équateurs. Quelques mots sur vous. Donc vous, Françoise Collet, c'est votre premier roman, donc je ne peux pas en dire plus. Je ne sais pas ce que votre vie, c'est votre premier roman. Vous êtes là pour, j'ai pas trouvé l'indication biographique, donc c'est magnifique d'être là pour ce livre. Vous avez passé, je crois, c'est vraiment là, un livre sur les rapports mère-fille, un très beau portrait de maman et ses rapports avec sa fille. On va rentrer vraiment plus dans le vif du sujet. Arnaud Dudek, vous êtes né à Nancy, je crois. Vous avez grandi avec l'équipe et Stade 2 dans les pas d'un père sportif. Et on va retrouver ce père au cœur, c'est le cas de le dire, du cœur arrière, puisque on suit vraiment l'itinéraire, ces relations père-fils. Le fils s'appelle Victor et il n'a qu'un rêve, c'est de devenir finalement champion en athlétisme, mais dans une discipline particulière et finalement mal connu, qui est le triple saut.
Absolument.
Voilà. Et enfin, Philibert Hume pour Roman Fleuve aux éditions Les Équateurs. Vous êtes journaliste. Vous avez coécrit avec Pierre Adrian le Tour de France par deux enfants, qui a eu le prix Lamartine. Également avec Pierre Adrian, les tribulations d'un Français en France, prix Alexandre Vialat. Rien que ça, bravo.
Non, on est des vaches à concours.
Je n'ai pas dit ça. Et vous essayez avec ce livre à la course en solitaire. Et là, on peut dire que vous quittez la course en solitaire pour nous proposer ce magnifique roman Fleuve, où on va suivre trois copains, on va dire, hein, qui vont partir sur un canot-bateau, finalement, le long de la Seine. Ils vont aller gagner, ils vont faire de Paris au Havre, ils vont subir un peu les méandres de l'existence. Alors, et puis donc, une question à tous les trois, de façon à ce qu'on puisse rapidement entrer dans le vif du sujet. Bon, le débat s'appelle Nouvelle Vague. C'est vrai que vous êtes des voix originales, je trouve, dans le roman actuel. Françoise Collet, je l'ai dit, c'est finalement un très beau livre sur des rapports mère-fille. On suit cet itinéraire de cette mère qui a eu 10 enfants. Et en fait, c'est l'adolescente qui va parler de sa mère, qui va montrer. Il y a des magnifiques passages. Pour elle, c'est vraiment son héroïne, on peut le dire. Donc, c'est important. Portrait profondément humain que vous avez fait avec Vivante. Quel a été pour tous les trois, donc, s'il y a eu un déclencheur, ou peut-être plusieurs déclencheurs possibles, quel a été un peu le déclencheur de l'écriture et le choix de vous lancer, vous, donc Françoise Collet, dans l'écriture de Vivante, vous, Arnaud Dudek, dans celle du cœur arrière, et vous, Philibert Hume, dans ce roman Fleuve. La question est posée à tous les trois. Et Françoise Collet, vous avez la parole.
Bonjour à tous, merci d'être là. Donc Vivante, oui, c'est mon premier roman, qui arrive un peu tard, hein, vu, je suis quand même la plus âgée là. Mais en fait, c'est surtout Vivante. On se tourne autour depuis très très longtemps. Ce roman, je l'ai écrit depuis longtemps. C'est quand même un roman qui est très inspiré de ma vie, des rencontres que j'ai faites, des femmes que j'ai rencontrées. Donc il a fallu du temps pour faire le tri dans tout ça, savoir ce qu'on pouvait dire, pas dire, filtrer, s'autoriser à dire des choses, s'amuser aussi, et puis le temps de laisser des choses un peu posées. Donc j'ai essayé de tricoter quelque chose avec mon histoire, et c'est un hommage, oui, c'est un hommage à une femme, à une mère, qui très clairement est la mienne, je le revendique, et cette femme et toutes les femmes qui ont été présentes pendant mon enfance, je veux dire ces femmes qui sont invisibles, mais qui sont surtout, enfin qui étaient vraiment de vraies guerrières, de vraies sorcières, mais des sorcières guérisseuses, des femmes qui j'avais envie de leur rendre hommage, Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce livre, parce que j'ai eu besoin de transmettre et de laisser un peu quelque chose d'elle.
Arnaud Dudek, il y a des passerelles possibles entre vos deux romans, celui du monde ouvrier, de ces milieux populaires. Le livre Françoise Collet se situe à la frontière allemande, hein, on est en Lorraine, si je vous ai bien lu, et vous, on n'est finalement peut-être pas loin. Enfin, aussi,
oui, d'autant que je suis originaire de Lorraine, voilà, comme vous l'avez
vous
dit
êtes
tout à l'heure.
Donc, oui, oui.
Il y a effectivement plusieurs points
donc,
communs.
Donc c'est assez... Voilà, ouais. Donc, même question que pour Françoise Collet, quel a été le point de départ donc, de votre, le déclencheur de ce très beau roman aux éditions Les Avrils de Le Cœur Arrière.
C'est toute une éducation d'amour du sport, hein, je dirais, pour résumer. Comme vous le disiez tout à l'heure, mon père est un grand sportif, origine modeste, origine polonaise. Ça lui a permis de se sociabiliser, le sport. Et il en a fait plus qu'une passion. Il a été un grand pratiquant de sport. Il a fait du rugby pendant une bonne dizaine d'années, pilier. Oui, moi je n'ai pas le physique d'un pilier, mais lui, oui. Et puis après beaucoup de tennis, il a été classé en classement tout à fait correct. Il a couru beaucoup. Les dimanches, on allait faire du vélo, des dizaines de kilomètres de vélo. Et puis on avait aussi ce rituel devant la télé, athlétisme, football aussi. On allait dans les stades voir la SNL, la Nancy-Lorraine. Voilà, j'ai toujours baigné dans le sport et dans l'amour du sport, même si moi, je n'ai jamais pratiqué, jamais fait de compétition. J'ai un peu ça dans les veines. Après, l'élément déclencheur du roman... Qu'est-ce qui m'a poussé vraiment à me centrer sur un sportif, un jeune sportif, et à le suivre sur une dizaine d'années, voir un petit peu son parcours et comment il a pu évoluer dans un monde professionnel? Il y a plein de choses, notamment pendant le premier confinement, comme beaucoup, j'ai regardé ce magnifique documentaire sur Michael Jordan, The Last Dance, qui m'a pas mal inspiré, parce que non seulement on parle de Michael Jordan, mais aussi on parle d'autres figures, d'autres joueurs qui ont participé à la construction du mythe Jordan. Et ça a fait partie un petit peu des petits déclics qui m'ont amené à raconter ce personnage qui est Victor et à le suivre sur 10 ans de son épiphanie sportive qui est assez banale. Hein. Il voit un matin avec son père quelqu'un qui saute dans un parc. Puis, un peu plus tard, il voit à la télé un sportif qui réussit un exploit. Et c'est ces éléments déclencheurs qui amènent ensuite l'histoire. Et le personnage s'est construit assez vite. Après, il fallait greffer à tout ça une vraie intrigue et une vraie évolution.
Philibert Hume, alors vous, c'est un périple le long de la Seine de trois compères qui se prétendent un peu aventuriers, on va dire, mais on va...
Voilà, ils ne se prétendent pas du tout, ils sont aventuriers.
Ils sont aventuriers, oui. Enfin,
ils sont très fiers de l'être. Oui, moi, le point de départ de ce livre, c'est l'aventure, effectivement, ma soif d'aventure, un peu au second degré, parce qu'on est des aventuriers dans les Yvelines et en région parisienne. On ne s'aventure pas très loin, mais on s'aventure quand même. C'est dans la tête, pour moi, l'aventure. C'est au coin de la rue, c'est au pied de chez soi. Et effectivement, le point de départ de cette soif d'aventure, c'est sans doute le fait que je sois atteint par le syndrome Tom Sawyer, qui touche tous les petits garçons qui ont trop lu de romans d'aventure, qui ont trop lu Tintin, et qui ne voient pas pourquoi le monde, leur vie, ne ressemblerait pas à un album de Tintin. Donc effectivement, nous sommes parisiens avec mes deux copains, et à Paris coule un fleuve qu'on appelle la Seine, et alors à force que ça coule et coule et coule tous les jours, même le dimanche, ils se disent mais pourquoi, où va toute cette eau, pourquoi n'irions-nous pas voir? Et c'est un spoiler, ça va jusqu'à la mer. Voilà.
Et voilà. Et finalement, ils se rendent compte que l'aventure est au coin, en effet, du fleuve. Le titre roman fleuve vous est venu rapidement parce qu'il tombe un peu sous le sens. Mais après coup, on veut dire, c'est pas oui.
Oui, c'est un roman fleuve parce que c'est un roman, même s'il est inspiré de faits réels. Oui. Et c'est un fleuve parce que c'est un fleuve. Mais voilà, c'est vrai que c'est le plus court roman fleuve de l'histoire des romans fleuves.
Oui, avec beaucoup d'humour, hein, il faut le dire aussi, il y a du second degré, il y a de la distanciation, c'est vrai que j'ai lu quelque part que c'était remarqué comme étant le roman le plus drôle, je crois, de la rentrée littéraire. Donc,
c'est moi qui ai écrit ça.
C'est vous qui l'avez écrit, voilà, c'était vous, donc tant qu'à faire, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Est-ce que, alors, pour tous les trois, justement, est-ce qu'il est important, quand on commence à écrire un roman, justement, quand on se lance dans l'écriture, de choisir le choix de la personne, si je puis dire, de dire « je » ou de dire « il » C'est vrai que, est-ce que du coup, vous, par exemple, ça a été, je crois, Arnaud Dudek, vous, c'est plutôt le « il », c'est une sorte de forme de narration, c'est pas la première personne. Et même question pour François Scollet, est-ce que c'est important, et on pourra aussi en parler pour Philippe Berhume, est-ce que c'est uniquement quand on a cette première ou troisième personne que finalement le récit, l'écriture peut se matérialiser et que peut-être vous-même vous y croyez plus, du coup, et vous vous lancez dans l'écriture? Une question que je pose souvent, mais ça me turlupine pas mal, ça. Donc, Arnaud Dudek et François Scollet.
Oui, alors là, ça s'est imposé très très vite. Pour d'autres, j'ai tâtonné pour un précédent roman, j'ai tâtonné, tant et si bien que j'avais fait quasiment une première version complète à la deuxième personne, et après, j'ai quasiment tout repris à la première personne. Ça dépend aussi du sujet. Là, le regard extérieur, le côté un peu commentateur sportif aussi, quelque part, me semblait s'imposer, et le « il » est venu très vite. J'ai, à partir du moment où le personnage est vraiment dessiné, où j'avais vraiment les contours de ce Victor sportif. Je travaille comme alors, c'est peut-être une déformation professionnelle, puisque dans la vie je suis chargé de recrutement, donc j'étudie beaucoup de CV, donc je fais un peu mon CV de personnage, les grandes caractéristiques, et puis à partir du moment où j'ai ces caractéristiques là je me lance, et là honnêtement le il est venu tout de suite, il n'y a pas eu de questionnement autour de la personne.
Je me permets de lire un court passage. Certaines rencontres sont des coups de volant donnés par le hasard. Elles font changer de voie brusquement. On roulait tranquillement vers une ville employée de mairie ou de contrôleur des impôts. 1,8 enfants, maison mitoyenne, traversant Est-Ouest en lotissement avec cuisine attenante à la salle à manger. L'été, on aurait goûté à l'authenticité de Sisteron ou bien on se serait ressourcé à la boule. Mais non, un écart, un autre chemin, une direction nouvelle, un vent nouveau. Tant pis pour la voiture plantée dans le décor, on continuera à pied. Voilà tout. Il y avait eu le blond volant du parc de l'Arbre Sec. Déjà, les rêves de Victor avaient gagné en intensité. Déjà, le garçon s'était interrogé sur les vices et les vertus de la ligne droite. Cette deuxième rencontre, la chose la plus stupéfiante qu'il ait jamais vue, le décide à ne plus tricoter de lendemain certain, à jeter laine et aiguille, reproduire cette réalité divine en devenir le reflet. Voilà son nouveau but. Si je parle des rencontres, c'est que aussi bien aussi dans votre livre, François Scollet, elles sont importantes puisque, bon, votre Victor, avec son père, bon, ça, on est vers le début du livre, là, on peut le dire, on peut laisser après au public, bien sûr, l'envie, le désir de le découvrir, mais finalement, ils vont tomber au cours d'une balade qu'ils font un matin sur un sportif qui est en train de s'entraîner, hein, ils voient un sac de sport, et c'est ça, finalement, qui va peut-être déclencher, là, encore une fois, cette vocation, cette idée de se consacrer à l'athlétisme.
Oui, c'est la magie des rencontres, c'est l'aventure, comme on le disait tout à l'heure. Une rencontre peut changer une vie, et c'est aussi ça que je raconte dans ce livre. Moi, ça a été ma rencontre avec l'écriture, avec certains auteurs dans les salons du livre, qui m'ont fait aussi pousser à écrire et à continuer à écrire. Là, effectivement, ce sportif qu'il croise, il vient d'un milieu modeste. Il n'a pas du tout de petites graines plantées en lui qui l'auraient poussé à pratiquer le sport ou à découvrir les choses beaucoup plus tôt dans un autre contexte. Là, c'est vraiment le hasard, comme souvent dans nos vies, qui fait qu'il s'y intéresse et il creuse ce sujet. Il s'inscrit ensuite dans un club d'athlétisme avec l'aide de son père, qui pourtant une cotisation à un club d'athlétisme, c'est pas rien quand on gagne juste le SMIC. Et c'est cet élément déclencheur qui va tout changer dans sa vie. Après, on sait bien que même si on est pris de passion pour quelque chose, le sport, la littérature ou les arts, voilà, pour un Kylian Mbappé, peut-être 100 qui ne vont pas vraiment franchir un certain nombre d'étapes dans le sport, idem dans la littérature, idem dans les arts. Mais en tout cas, c'est ça qui change sa vie, c'est ça qui détourne le fleuve pour lui.
François Scollet, je le disais d'entrée de jeu qu'en effet, c'était un très beau portrait de mère par sa fille. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un passage notamment qui m'a beaucoup alerté. Je parlais d'héroïne, justement, d'entrée de jeu. Cette femme était multiple, à la fois affectueuse, fragile, usée par la vie et forte comme un roc, têtue, autoritaire, cruelle. Elle pouvait aussi se montrer froide et injuste, surtout avec mes frères et mes sœurs aînées. Nous n'avons pas eu la même mère. Entre l'aînée de ses enfants et la toute dernière, il y avait 21 ans d'écart, 10 enfants. On a le temps de changer, de grandir, de s'attendrir. Elle avait eu un peu plus de temps pour nous aimer, surtout une fois que le vieux était parti, du temps de cerveau disponible. Pour moi, c'était une super-héroïne, la personne la plus intéressante que je connaissais. C'était elle qui avait lu le plus de livres, qui me faisait mes rédactions, qui me disait qu'il y avait un ailleurs, une autre vie possible. Elle ne me bourrait pas le crâne avec des rêves de midinette. Elle attendait autre chose de moi. Elle me le faisait comprendre un peu chaque jour, sans même me parler. D'ailleurs, on ne se parlait pas tant que ça. On n'en a jamais vraiment eu besoin. Notre communication était intuitive, presque télépathique. C'était comme une promesse qu'on se serait faite quand j'étais encore dans son ventre et dont on n'aurait plus jamais parlé. C'était plus que de la confiance, comme un pacte. J'avais foi en elle, elle avait foi en moi. Voilà, donc il y a, comme un peu dans le livre d'Arnaud Dulec, cette... l'importance des rencontres aussi, cette solidarité aussi qui joue, les frères. Voilà, je pense que c'est aussi ça, votre livre. Et c'est aussi comment, peut-être, dans deux, comment il est possible, parfois, même si on est dans un milieu où, social, difficile, voilà, c'est cette volonté qu'il peut y avoir d'en sortir, de s'en libérer, peut-être, de trouver de l'autonomie. Voilà, j'essaie de faire un petit peu des liens entre vos romans.
Oui, parce qu'il s'agit d'une femme. D'ailleurs, je raconte son histoire aussi. Son histoire est complexe. On n'est pas fait. D'un seul matériau, on trimballe beaucoup de choses aussi. Et elle, avant la narratrice, elle aussi a fait des rencontres plus ou moins bonnes, plus ou moins malheureuses, qui l'ont amenée là. Mais c'est quand même quelqu'un qui avait son certificat d'études, qui avait vécu à Paris. Et à un moment, j'en parle aussi de cette femme. Oui, on n'a pas eu la même mère. Quand on a une maman de 55 ans qui a 140 kilos parce qu'elle est usée, abîmée, mon frère aîné, le plus grand, il a eu une mère qui avait 30 ans, qui avait vécu à Paris, qui était mince, qui avait de l'énergie, qui mettait des rouges à lèvres très rouges et des bas de soie. Et c'était pas la même femme, donc. Voilà, c'est vrai que c'est aussi cette histoire-là dont je parle. C'est comment la vie et peut être une farce. Comment on essaie, comment ces femmes vertueuses ou pas, hein, parce que y a tout un panel de portraits, et comment elles réussissent à insuffler de l'énergie, de l'espoir, du rêve. Et à mener ces combats sur un quotidien qui est difficile, et à parvenir à nous transmettre ça, dire toute la dimension du rêve, toute la dimension de l'écriture, de la lecture, tout ce qui était très exotique, en fait, très étranger à notre quotidien, c'est par elle que ça passait, par sa vie, par ses rencontres, quand elle nous parlait de Paris, quand elle nous parlait de livres, voilà. Donc c'était vraiment, oui, c'était quelqu'un qui nous emmenait ailleurs et qui voulait nous emmener ailleurs.
Il y a cette volonté dans votre livre, Philibert Hume, d'aller vers l'ailleurs aussi. Je me permets de lire simplement le tout début. Il y a deux catégories d'individus, ceux qui prennent des risques et ceux qui n'en prennent pas, les aventuriers et les autres. Me concernant, j'appartiens à la première catégorie. Les aventuriers vivent une vie trépidante et portent des gilets à poche. Ils courent le monde, gravissent des sommets, tombent dans des crevasses, s'écorchent les genoux. Quand ils rentrent à la maison, ils racontent leur aventure en enjolivant à peine, parce que c'est bien joli de ficher le camp aux 500 diables. Si on ne peut en parler au retour, ça ne sert à rien. Quand l'entourage a suffisamment soupé du récit des aventures, il est temps de repartir. Telle est la destinée des aventuriers. C'est à ce prix seulement, qu'ils font rêver les enfants, dont 1 sur 10 000 environ deviendra aventurier à son tour. Les autres seront commissaires de police, fonctionnaires des postes, épiciers, assureurs, vendeurs de cigarettes électroniques, beat managers, scrum masters ou chief happiness officer, comme tout un chacun. On entoure les aventuriers d'un certain prestige, et c'est pourquoi les autres, c'est-à-dire les individus non aventuriers, ne les aiment pas beaucoup. Ils disent que les aventuriers se vantent. Nous ne nous vantons pas, nous enchantons le monde en l'honorant de notre visite et portons à la connaissance d'autrui le merveilleux des confins par le récit époustouflant de nos folles tribulations. Aussi, il arrive que nous passions à la télévision. sur des plateaux climatisés, devant des animateurs aux dents trop blanches pour être honnête, nous célébrons les joies de la vie au grand air. Ça, c'est le tout début du texte. Donc cette volonté, comment... Pourquoi dans ce rêve peut-être d'aventure, c'est aussi peut-être pour... Alors c'est un livre qui rend hommage aussi à la France, hein, qui rend hommage à la littérature, qui rend hommage à un monde un peu à la Maupassant. Enfin, il y a cette, il y a toute cette dimension, citation d'Alphonse Allais que vous avez placée aussi en épigraphe du livre. Il y a ce côté-là quand même aussi dans votre roman.
Oui, c'est Espiègle, le passage que vous avez lu, comme tous les paragraphes qui suivent, sont à prendre au second, voire au troisième degré. Effectivement, il y a une petite moquerie douce des aventuriers professionnels, des aventuriers dits professionnels. Pour moi, c'est pas un métier et on en fait de plus en plus une profession. Et lui, le narrateur, qui est un peu moi, qui est pire que moi, décide à 25 ans de devenir aventurier, comme il aurait décidé de devenir vendeur de cigarettes électroniques ou ingénieur informaticien. C'est une voie qu'il choisit et c'est un cursus qu'il suit. Et pour accrocher à votre question sur les rencontres, oui, moi je crois que les voyages sont les plus riches, sont faits de rencontres qu'on voyage. Finalement, on collecte plus de visages que de paysages. Et moi, je le vois bien, j'ai fait d'autres voyages en France que celui-ci. J'ai beaucoup tourné en rond, dans un sens et puis dans l'autre. Et en fait, j'ai rencontré beaucoup plus de gens, et c'est ce qui m'a enrichi, beaucoup plus que les paysages qui sont pourtant variés. Et là, le long de la Seine, on a rencontré quelques jolis spécimens, tous les trois, des gens improbables. Je crois d'ailleurs qu'on n'habite pas par hasard au bord d'un fleuve. Il faut avoir l'esprit... curieusement tourné, mais on a croisé des gens que j'aurais pas pu inventer, comme Bertrand, qui est dont le métier est d'être responsable de la passe à poisson du barrage de Pose, et son métier consiste à... Il y a une caméra qui filme la passe du barrage de Pose, c'est une passe d'un mètre de large, et ça filme jour et nuit les poissons qui remontent le fleuve. Et lui, il regarde ça, la vidéo, tous les matins en accéléré, et dès qu'il voit un saumon, il met sur pause, il fait une petite croix dans son carnet à la colonne saumon, et au bout de 6 mois, il transmet son carnet de notes aux autorités compétentes. Et voilà, il nous apprend comme ça qu'il a compté 9 saumons l'année dernière, et 12 l'année suivante. Et il y a lui, il y a Monsieur Mallard, il y a Venceslas, qui est un tenancier de guinguette. Enfin, c'est des gens que j'aurais pas pu inventer.
Il y a Johnny aussi, enfin, habitant
de Johnny, ouais, un dénommé, ouais. Johnny, c'est pas, ouais, tout à fait le vrai, mais il est assez ressemblant.
Oui, c'est sûr. Et bien, il y a Sylvain Tesson aussi.
Et il y a Sylvain Tesson.
Pour le coup, là, c'est...
C'est vrai, c'est vrai.
Oui,
vous voyez qu'il y en a des gens curieux en bord de Seine.
Non, j'ai pas voulu dire ça, mais enfin, si.
Lui, Sylvain Tesson, qui est un ami, a appris que nous engagions dans ce projet de descendre la Seine, donc de Paris jusqu'à la mer. Et il s'est proposé de nous ravitailler. Et évidemment, comme il est malicieux, il nous a fourni le pire ravitaillement qui soit. Il nous a filé une bourriche d'huîtres et une caisse de vin et du maroilles.
Mais c'est pas forcément adapté. Oui, enfin, c'est pas...
Non. Je crois pas.
François Scollet, oui, pourquoi j'ai pas parlé de l'époque où il se situe. C'est vrai qu'il est, quand même assez centré, on va dire, sur les Trente Glorieuses, un peu votre roman. Et est-ce que c'est important parce que c'est un peu un retour, évidemment, sur le passé, mais est-ce que ça, c'était quelque chose que vous souhaitiez vraiment ancrer dès le début de l'écriture?
En fait, il y a deux temporalités dans le livre, et puis c'est quand même, il y a un effet miroir entre la femme aujourd'hui, la narratrice qui parle de sa vie, qui va quitter son deuxième mari, et qui est dans un truc qu'elle a déjà fait une fois, donc elle a bien compris que ça durait pas toujours, ça pouvait durer des fois toujours, mais c'était quand même assez compliqué. Et là, elle se dit, bon, on la retrouve à un moment de sa vie où elle est plutôt à se dire, bon, ben, j'y suis pas parvenue encore une fois, mais bon, on va prendre les choses, on va regarder le verre à moitié plein, et on va se dire que c'est peut-être l'opportunité de vivre encore un amour, ou de vivre encore quelque chose, d'être encore vivant. Donc on la retrouve à ce moment-là, et évidemment... Ça la ramène à l'histoire de sa mère et de son enfance, et c'est comme ça qu'elle va raconter cette enfance qui se passe pendant les années 50, juste après-guerre, cette espèce de tribu bancale qui se retrouve parachuté à la frontière allemande dans un petit village du bassin houillé de Lorraine. Et elle va raconter cette enfance, cette histoire de cette famille qui est quand même assez étrange, puisque la mère a eu un premier mari juif. Elle a eu 6 enfants avec lui et 4 avec un Algérien. Et la narratrice est la fille de l'Algérien, mais elle porte le nom du juif. Et c'est aussi un élément très important, puisque c'est ce qui va lui permettre aussi cette espèce de vide, d'identité hybride, va lui permettre aussi de prendre de la distance, et notamment avec son père. Généalogique, son géniteur, qui est violent. Et le fait de ne pas porter son nom, en fait, c'est plutôt quelque chose qui va lui donner la force de dire non et de s'opposer à cet homme et de dire non à cette vie qui est un peu au code, à cette vie qu'on lui impose. Et ça lui donne une certaine forme de liberté. Donc oui, il y a deux temporalités. On parle, il y a la femme d'aujourd'hui qui regarde un peu l'histoire de sa mère et qui quand même fait des comparaisons. Et on a quand même quelque chose qui est de l'ordre. Comment aujourd'hui une femme peut décider de partir, de choisir sa vie, et comment nos mères, qu'est-ce qu'elles pouvaient faire et comment elles pouvaient prendre ce genre de décisions, et est-ce qu'elles pouvaient les prendre. Voilà, il y a aussi cette espèce de discussion, de conversation entre ces deux temps.
Est-ce que justement pour vous, Arnaud Dudek, c'est pas un peu finalement ce thème d'être possibilité de sortir aussi d'un milieu? C'est vrai que ce sport, le triple saut, alors pourquoi avoir choisi le triple saut? Pourquoi le triple saut? Alors voilà, ça c'est une question que je voulais vous poser.
Pourquoi le triple saut?
C'est une discipline mal connue quand même.
Oui, alors moi j'ai fait un peu d'athlétisme quand j'étais gamin. Je n'ai pas fait triple saut, moi j'étais plus dans l'endurance, le 800 mètres, 1500 mètres, etc. Mais ça m'a toujours fasciné. Il y a certaines disciplines de l'athlétisme qui sont absolument fascinantes. Qu'on soit néophyte ou grand spécialiste, il y a le saut à la perche, qui est quand même un truc de dingue, lancer du javelot, lancer du poids, et le triple saut. Alors le triple saut qui a pendant longtemps été un peu un parent pauvre de l'athlétisme, parce que finalement ceux qui faisaient du triple saut c'était les mauvais sauteurs en longueur. Et sont arrivés des champions qui ont un petit peu révolutionné la technique, des entraîneurs qui ont un petit peu révolutionné aussi la technique, dont un entraîneur polonais dont je parle dans le livre. Et puis, dans les années 90, est arrivé une anti-star dans le milieu qui s'appelle Jonathan Edwards, un Anglais qui est toujours recordman du monde de la discipline avec 18,29 m, beau, pas spécialement grand, pas spécialement costaud, mais qui a réussi dans une même compétition à battre 2 fois le record du monde. Et j'étais devant la télé ce jour-là et ça m'a beaucoup marqué. Cet Anglais qui pendant longtemps a refusé de sauter le dimanche parce que sa religion de par sa religion et qui a fini par se détourner complètement de la religion beaucoup plus tard, ça m'est resté en fait, et je pense que cette petite graine qui a été semée à ce moment-là, elle est revenue quand j'ai dû choisir la discipline. Et puis, pour travailler sur le personnage, pour travailler sur l'arrière-plan athlétique, j'ai aussi fait plusieurs rencontres. C'est aussi ça qui permet la littérature, c'est rencontrer des gens, hein. Les voyages et la littérature. Et j'ai pas mal échangé avec plusieurs graines de championnes qui l'une fait de l'heptathlon, l'autre fait du lancer du javelot. Et je pense que ça a aussi contribué à nourrir un petit peu le choix du triple saut.
Avec un roman qui est même structuré avec un chapitre premier saut, deuxième saut, troisième saut, et puis même un chapitre suspension à un moment donné. C'est le moment où justement on est suspendu, où la vie peut... Et puis après, c'est un peu comme peut-être dans le livre c'est des milieux bien sûr différents, mais cette possibilité qu'il y a peut-être de s'émanciper, de quitter, avec un thème très présent dans votre roman aussi, qui est celui de l'entraîneur, cet entraîneur qui vous mène à fond et qui finalement parfois totalement déconnecté de la réalité. À un moment donné, il y a un échange, je crois, qui pose la question à une championne, donc Victor, qui est le héros du livre, pose la question à une championne d'athlétisme qui lui dit « C'est quoi pour vous une carrière ?» Elle dit « Avoir une vie heureuse, une carrière réussie, avoir une vie heureuse. » Parce que c'est finalement ça aussi le thème du roman, c'est comment, jusqu'où on peut s'engager, se libérer peut-être, prendre du plaisir et finalement après être enfermé, être frustré, ne plus pouvoir sortir d'une forme de piège en quelque sorte.
Un sportif professionnel souffre, c'est quand même le principe. L'entraînement, c'est des heures d'entraînement par semaine, c'est maltraiter son corps, c'est exercer une discipline qui est parfois tellement exigeante qu'on ne la pratique pas au quotidien. On ne court pas des marathons toutes les semaines. Quand on est marathonien, on en court de temps à autre, sinon le corps ne supporterait pas. Et c'est s'émanciper, oui, mais à quel prix? C'est quitter sa famille parfois à 10-12 ans pour les jeunes danseuses, ou un peu plus tard, mais en tout cas dans ces eaux-là, et quitter sa famille et se construire une autre famille avec ses camarades d'entraînement, qui sont parfois aussi des adversaires, donc c'est un rapport un petit peu particulier aussi. Et puis avec les entraîneurs qui nous choisissent et qu'on rencontre pendant qu'on évolue, alors des entraîneurs fédéraux, des entraîneurs de structures privées, mais qui deviennent d'une certaine manière des parents de substitution, parce qu'on est en général loin de la famille, on choisit des sports qui nous amènent à aller assez loin, alors que ce soit en natation, on a des clubs de natation qui sont très, très côté à Marseille par exemple qui amène des gamins à faire 800 000 km ou des structures d'entraînement de football où là aussi on doit quitter sa famille assez jeune. Donc là forcément il y a une émancipation nécessaire puisqu'on quitte sa famille, mais après on reconstruit un noyau familial quelque part, et si les entraîneurs ne sont pas aussi bienveillants qu'on peut l'espérer, et ben ça peut briser des vies, parce que c'est un métier, le sport. Et comme dans tout métier, il peut y avoir de la violence, il peut y avoir des risques psychosociaux. Et quand on encaisse ce genre de choses à 14, 15, 16 ans, on peut être cassé pour longtemps.
Philibert Hume, vous, peut-être le noyau finalement familial, il est peut-être recréé par ces trois compères, ces trois potes, copains qui partent finalement pour cette aventure le long de la Seine.
Oui, effectivement, c'est quelque chose de ce. Au départ, le narrateur hésite d'ailleurs à partir seul, et puis il finit par se dire qu'il faut bien des gens pour porter les sacs. Et alors, il propose à ses deux copains de l'accompagner. Mais c'est vrai que c'est un apprentissage du compagnonnage formidable, l'aventure. Moi, mon grand-père me disait, m'avait donné ce conseil utile que je vous donne à mon tour pour choisir une fiancée. Il m'avait dit pars avec l'élu de ton cœur pendant une semaine au camping. Si t'as pas voulu la tuer le vendredi, c'est la bonne. Et là, effectivement, on était tous les trois sur un canot prévu pour deux. Déjà, ça posait un petit problème. On a manqué de rien, sauf de place, peut-être. Et on a fini, évidemment, par se taper dessus. Mais on s'est réconciliés dans la foulée. Mais c'est vrai que c'est un voyage dans le voyage, quoi. On apprend, on le sait, ça, tout le monde le sait. On apprend en voyage, en profondeur, les gens, beaucoup plus qu'on ne peut les connaître en... simplement en les fréquentant 10 ans durant au boulot.
Et alors du coup, ils vont finalement apprendre à mieux se connaître. Et alors, j'aime beaucoup les gravures aussi qui accompagnent le roman, qui sont d'Arthur Capmas, qui sont des gravures qui donnent un peu un esprit. Alors on va retrouver le radio de l'époque avec les piles, bon, voilà, qu'on n'utilise plus maintenant.
Enfin, ouais, ce livre, je ne l'ai pas dit, mais ça s'inspire... Donc on est trois pieds nickelés à descendre la Seine de Paris jusqu'à la mer, et on s'inspire d'un livre que j'aime beaucoup, un peu oublié en France, qui s'appelle « Trois hommes dans un bateau »,« Three men in a boat », et qui raconte la trois gentlemen à la fin du 19e qui remontent la Tamise. Et ce sont trois types qui sont taillés pour tout sauf pour l'aventure, à peu près comme nous. Et donc j'ai voulu conserver cet esprit-là dans le livre en utilisant des phrases empoulées, en ayant un recours abusif aux adverbes, en utilisant le subjonctif de l'imparfait, et en utilisant également en émaillant le récit de gravures, de vieilles gravures à l'ancienne, et enfin d'une couverture rigide, cartonnée, comme on le faisait autrefois.
Oui, puis avec une sorte aussi de d'hommage dans la table des matières, avec des têtes de chapitre où, qui sont vraiment détaillées, le génie des hommes, leur paresse, avec des titres. C'est un peu le côté...
Ouais, je ne sais pas si vous vous souvenez, ouais. Ça, dans les récits d'autrefois, dans les romans d'aventure, c'est un procédé littéraire assez curieux. Les chapitres commençaient par 6 lignes qui détaillaient ce qui allait se passer. Alors, je suppose que c'était pour aguicher le lecteur, pour lui donner envie de lire, mais ça tue aussi le suspense. Et là, je m'en amuse.
François Scollet, donc vous, j'ai envie de dire, c'est un livre aussi où vous arrivez à manier à la fois la narration, la qualité narrative, une manière de, on est vraiment happé par l'histoire, le lecteur est, vous suit dès le début et vous ne lâchez pas en cours de route. Mais il y a aussi un travail sur les dialogues aussi, voilà, beaucoup de choses qui passent par. Et puis avec une structure où aussi dans les titres, vous dites le père, la mère, on rencontre les personnages au fur et à mesure. Cette idée-là, ce travail justement à la fois sur la narration classique, on va dire, et le travail sur les dialogues, vous avez souhaité la mettre en avant dès le début, ou est-ce que vous vous sentiez peut-être plus à l'aise dans le côté narration, dialogue ? Ça donne, je trouve, au livre une force avec des moments où il y a vraiment des moments de rencontre, des moments d'échange, des moments parfois même de violence, notamment avec le père que vous avez évoqué, qui donne une force, je trouve, au roman et qui donne son originalité.
J'ai essayé d'être au plus près, en fait, justement pour marquer ces deux temporalités. Donc, c'est vrai qu'on va avoir une partie du livre qui va être sur des mois, les 7 mois qui vont correspondre à la fin de cette histoire d'amour d'aujourd'hui. Et puis ensuite, on va partir sur des espèces de portraits, de moments, de séquences de vie, comme on peut avoir quand on a un petit peu de temps à soi et on a l'esprit qui s'en va et qui va retrouver une odeur ou une couleur, enfin, et se replonger dans des souvenirs, mais d'une manière assez douce, en fait, et retrouver toutes ces sensations. Et moi, j'ai essayé d'être là-dedans, donc j'ai essayé d'en faire quelque chose aussi. Peut-être sur quelque chose de juste au niveau du ton et de l'écrire un peu comme une confidence, comme un peu comme les griots, comme les grands-mères racontaient des histoires. C'est un peu comme un conte. J'ai écrit ce livre comme un conte moderne où il est question de l'amour, de la confiance et bien sûr, mais il est aussi question de loups, de louves, de sorcières, de la brutalité, de notre animalité, de notre sauvagerie et de ce qu'on peut trouver dans les maisons aussi des fois. Donc il est très oral, en fait. C'était comme si c'était une grand-mère, voilà, comme si moi, grand-mère, je racontais l'histoire à mon petit-fils ou à ma petite-fille. Et c'est ce genre d'histoire qui se raconte de famille en famille, comme les griottes africaines. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a ce sentiment de quelque chose d'assez musical. Enfin, c'est ce qu'on me dit, en tout cas.
Sur le rythme aussi, sur la fluidité de l'écriture. Oui. Et c'est vrai qu'Arnaud Dudek, alors vous, c'est finalement un peu ça. C'est aussi une sorte de... un peu de huis clos, notamment quand le père qui est ouvrier vit avec son fils Victor. Et il y a des moments... Alors, on parlait tout à l'heure avec François Scollet de la... Quand j'ai lu ce passage où elle dit finalement on n'avait pas besoin de se parler beaucoup avec ma mère, mais finalement... on se comprend, parce que elle fait référence au ventre, voilà. Mais c'est un peu difficile parfois avec le père, entre le père et le fils. Le père est plutôt taiseux, quoi. Enfin, et en même temps, il est pétri aussi d'amour. Enfin, vous arrivez à en faire un portrait nuancé, pas manichéen. Voilà, j'y insiste.
Oui, effectivement, ouais. Taiseux et aimant, c'est pas antinomique. Et effectivement, là, on a souvent en littérature des très beaux portraits de mère-fille. Là, j'ai choisi de m'attarder sur ce rapport père-fils assez compliqué, assez simple à la fois. Donc la maman est partie, voilà, elle a pas réussi à tenir son rôle de mère, elle est partie vivre des aventures à droite à gauche, et puis elle revient de temps en temps, elle réapparaît, elle revient dans la vie de Victor de façon en général assez douloureuse. Elle est insaisissable, elle exerce 15 000 métiers, elle est agent immobilier, puis le lendemain elle n'est plus agent immobilier. Et ce Victor, ce garçon, il est vraiment élevé par son père qui boit un petit peu, qui ne parle pas beaucoup, mais qui dès que son fils a besoin de quelque chose, est là pour lui. Et il n'y a pas besoin de mots forcément pour ça. Il y a des gestes, il y a des tapes dans le dos, il y a des regards. Et puis ce père, il s'est sacrifié pour son fils. Il se sacrifie, il se saigne pour lui payer sa licence d'athlétisme, pour l'emmener à droite à gauche avec sa voiture. Et puis quand le fils prend vraiment son envol, quand il s'inscrit dans un début de carrière professionnelle, bah le père s'autorise à retomber amoureux après. Ouais, j'ai beaucoup de tendresse pour ce personnage. J'espère que ça se ressent aussi à la lecture. J'ai vraiment eu envie de creuser aussi sa psyché à ce papa. Ben voilà, qui a traversé beaucoup de difficultés, qui n'exerce pas du tout le métier de ses rêves, mais qui ne cherche pas non plus à se réaliser dans son fils. Il n'a pas surinvesti le côté papa entraîneur. Il n'est pas du tout à essayer de pousser son fils à réaliser des exploits. Il suit tout ça de loin. Ce n'est pas du tout son milieu. Donc, pour lui, c'est une autre langue, hein, le monde professionnel. Mais il y a ce regard bienveillant et distant qui laisse de la place à son fils, qui lui permet aussi de se réaliser. Et beaucoup d'amour malgré les silences.
Et c'est notamment vrai quand son fils va le trouver un jour, qui dit je veux m'inscrire au club d'athlétisme. Le père répond d'abord non, puis finalement ouais, d'accord si tu veux. Enfin, il y a cette très belle scène où finalement il en est presque étonné parce qu'il s'attendait peut-être à une forme de résistance plus voilà, et finalement il lui dit ok, on y va. Et c'est vrai que ça va lui coûter cher et ils vont partir. À la ville qui est toute proche, ça se passe dans une petite ville, enfin dans une ville moyenne. Enfin,
oui, voilà. C'est ça. Oui, c'est une épopée pour eux parce que voilà. La grande banlieue d'une ville moyenne, prendre la voiture, se garer, aller prendre un petit ticket à la maison des associations de la mairie, attendre son tour, prendre la parole devant l'employé de mairie pour demander une licence. Tout ça, c'est leur petite épopée. Ils n'ont pas l'habitude de faire ce genre de choses et ils le partagent tous les deux et ça aboutit à quelque chose de nouveau pour Victor. C'est un petit papier qui va lui ouvrir les portes d'un monde qu'il ne connaît pas du tout et qu'il a juste observé de loin dans un parc ou à la télévision. Et effectivement, le père doit faire un petit peu les comptes dans sa tête dans un premier temps pour savoir combien ça peut éventuellement lui coûter. Puis après, derrière, il ne peut pas refuser ça à son fils.
Philibert Hume, en vous lisant, je pensais, en lisant donc Roman Fleuve, à Jean Rollin. Je ne sais pas si vous connaissez forcément Jean Rollin, bien évidemment, et à Emmanuel, il y a un autre écrivain du voyage aussi qui écrit pas mal. Je pensais notamment à Jean Rollin parce qu'il a écrit aussi sur la Seine, le pont de Beson, enfin, voilà. Et ses pérégrinations, je trouve. Je fais un peu des parallèles avec son œuvre. Je ne sais pas si ça vous convient,
ouais. C'est très flatteur parce que c'est un grand bonhomme, Jean Rollin. Et effectivement, lui, c'est Jean Rollin est un explorateur, un réel explorateur, mais il n'a pas le permis de conduire. Et donc ça l'oblige à prendre le. Il a visité, je crois, Las Vegas. Il avait écrit un livre sur Las Vegas en prenant le bus.
Le ravissement de Britney Spears.
Ouais, voilà, le ravissement de Britney Spears aussi, le goût des titres extraordinaires. Et oui, je crois qu'il va très loin sans s'éloigner outre mesure. Il explore, il a écrit aussi sur le périphérique parisien, il a écrit sur ces zones affreuses et commerciales, vous savez, où il y a planté une halle aux chaussures et un buffalo grill et toutes ces gangrènes autour des villes, cette gangrène moderne. Et lui, il écrit sur ces endroits-là qui sont complètement désertés par les écrivains, par la littérature. Il a écrit des pages sublimes sur Chili Mazarin ou des comme ça, sur l'Ibis Budget, il y a un article qui s'appelle Quasi-apparition de la Vierge au deuxième étage de l'Ibis Budget de Chili Mazarin. C'est pas une totale apparition, c'est une quasi-apparition de la Vierge Marie. Voilà, et oui, bah, donc c'est, je prends ce compliment.
Je pensais à Emmanuel Ruben aussi, qui est autre écrivain du voyage aussi. Qui, voilà. Quel regard vous portez alors sur la scène après coup, du coup, après avoir écrit ce livre? Est-ce que du coup, il y a des.
C'est un fleuve dégoûtant.
Je sais pas, il y a.
Non, alors d'ailleurs, non, parce qu'on se baignait matin et soir dedans, vous voyez, on en a réchappé. Il faut pas boire la tasse, quoi. Ça, je le décommande. Mais non, en fait, c'est. Ce qui était drôle, enfin ce qui nous semblait intéressant, c'est que ce fleuve n'est pas prévu pour le canotage, il n'est pas prévu à cet effet, il n'est plus prévu parce qu'il l'a été au 19e, mais aujourd'hui c'est très incongru de canoter, surtout que sur notre canot on avait accroché une tringle à rideau qui faisait office de mât et un rideau de douche de voile, et donc on était parfaitement incongru, et c'est moi ce qui me plaisait c'était ça, c'était de mettre trois types qui ne sont pas taillés pour l'aventure dans des conditions de l'aventure, sur un fleuve sale, à bord d'un canot de place, et ils étaient trois. Et c'est comme ça qu'on crée les conditions de l'aventure, du roman, en fait, du romanesque.
Une sorte de huis clos aussi, en quelque sorte, de huis clos dans le canot, quoi. Enfin, une sorte de.
Oui, ouais, c'est vrai que c'était un huis clos avec ce.
Vase clos.
C'est vrai. Alors, on campait sur les îles, on campait sur les berges, et on rencontrait ce fameux peuple des berges dont on parlait tout à l'heure. Et à chaque fois, il y avait ce déchirement un peu terrible que connaissent tous les voyageurs au long cours ou au court cours. C'est que quand le voyageur passe son temps à demander de l'aide ou à demander une direction, à demander de l'eau, un verre d'eau, ou à demander. Et ces gens vous tendent la main le plus souvent. Et le lendemain, on passe des soirées mémorables, on se quitte, on est les meilleurs amis du monde. Et au matin, ça nous est arrivé plusieurs fois, au matin, on était raccompagnés par les types qui nous avaient sauvé la vie la veille. Et sur la berge, à chaque fois, ils comprenaient qu'ils ne monteraient pas dans notre canot, qu'on partirait seul, qu'on serait d'affreux bonhommes ingrats. Et je crois que le voyageur solitaire est un diable qui passe, qui demande de l'aide, et puis qui s'en va en laissant dans l'air un parfum d'aventure.
C'est beau, c'est pas mal du tout. Comme, on va, parce que l'heure tourne, on va vous passer la parole. Avez-vous des questions, des remarques, des réflexions pour Philibert Hume, pour Arnaud Dudek ou François Scollet? On a un temps d'échange avec vous si vous le souhaitez. Donc
Il n'y a pas foule. Hein.
C'est pas évident. Non, mais c'est une simple proposition de toute façon. Hein. C'est pas du tout. Oui. Je ne sais pas s'il y a un micro peut-être qui va vous être donné.
J'espérais que justement vous parleriez de trois hommes dans un bateau, parce que forcément, il y avait le chien. Vous n'aviez pas un chien, vous.
Alors on avait mieux. On avait effectivement, on a poussé l'hommage jusqu'au bout. C'est l'un de mes deux acolytes qui a eu cette idée merveilleuse. Il a, pour garder le vin blanc au frais, il l'accrochait à une laisse de 3 mètres par le goulot et qu'on traînait dans un tillage. C'est pas une blague. Et chaque soir, on ramenait la laisse. Et on débouchait, puis on le remplaçait par une nouvelle bouteille. Donc vous voyez, on a poussé l'hommage très loin. Et ça, c'est une idée géniale, une trouvaille formidable de mon ami François Vaquet. C'est le génie humain.
Et trois hommes dans un bateau, bon, c'est l'humour anglais, quoi. Donc vous avez dit que ce livre avait beaucoup d'humour. J'espère que vous êtes à la hauteur.
Bah,
oui, je confirme, vous êtes à la hauteur. C'est Jérôme Cagérôme, c'est ça, non?
Ouais,
l'auteur de Norvège, c'est ça. Ouais. Peut-être d'autres remarques ou réflexions, peut-être pour François Scollet ou Arnaud Dudek. Est-ce qu'il y a tous les trois des. C'est trop tôt pour le dire, et vous ne répondez pas à ma question. Il y a des livres en préparation, vous avez des idées d'un prochain c'est votre premier roman, François Scollet, donc est-ce qu'il y a quelque chose déjà qui se met un petit peu en place
Oui.
Ça vous donne envie de poursuivre?
Bah oui, bien sûr. Et maintenant que je me suis autorisée à faire enfin quelque chose qui me plaît, j'ai des idées qui arrivent et j'aimerais bien avoir un peu de temps pour pouvoir m'y mettre de nouveau. Donc il faut organiser sa vie pour ça, quoi, parce que évidemment on travaille, il y a des choses. Et ça nous prend du temps, donc voilà. Mais j'adorerais, oui. Et je pense que je vais tout faire pour le faire. Oui.
Oui, moi, je pense c'est bien parti, là. Arnaud Dudek, un projet ?
Ouais, alors j'ai un deuxième roman junior qui sort chez Actes Sud Junior en février, qui s'appelle Des chamallows au ketchup, et un troisième en préparation, un troisième tome du même, avec le même personnage que je suis en train d'écrire, là.
Philibert, il y a des projets des...
Oui, quelques projets de voyage, mais c'est un peu embryonnaire, j'hésite un peu. Peut-être que je vais remonter la Seine, après m'être cool et douce, mais je crois que c'est plus difficile.
Ah oui, c'est plus, ça demande plus de...
Il faut ramer plus fort.
Et à un moment donné, vous dites qu'elle se creuse aussi, vous êtes dans votre bateau, là vous êtes un peu...
C'est assez étonnant comme fleuve. D'abord, c'est très industriel, on croise des bateaux, après Rouen, des bateaux de 300-400 mètres avec des grues sur le pont. Et effectivement, elle est parfois très bucolique par endroits, et à d'autres moments, elle est très, très décevante.
Elle est contrastée, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Je reviens vers vous, sinon on va peut-être en rester là. Oui, monsieur ? Combien faut-il de temps pour écrire un livre ?
Moi, 2-3 heures, personnellement.
Oui, quelques jours. Non, pour moi, ça. Je crois que ce que je disais au tout début, ce livre, cette histoire, en tout cas, elle a grossi, elle a grandi, et elle a été écrite depuis longtemps. Et un jour, il m'est arrivé, j'ai fait un burn-out et je me suis retrouvée un peu face à moi. J'ai eu un problème de santé. Et là, je pense que j'ai eu peur. J'ai eu peur de passer l'arme à gauche. Et je me suis dit là, il va falloir qu'on se parle. Et je me suis mise à écrire, mais c'est vraiment c'était fluide en fait. Je sais pas si ça va recommencer. J'en doute parce que celui-là, il m'a pris du temps. Mais en fait, ça s'est écrit très vite. Très vite.
Arnaud ?
Ouais, un projet comme Le Cœur arrière, c'est à peu près un an. Entre le moment où on commence à avoir un peu plus qu'un embryon d'idées, où les premiers mots sortent et où on travaille aussi sur l'arrière-plan un peu social, essayer de rencontrer des gens, lire des choses. Et puis la fin du projet, à peu près un an, ça prend. Voilà. Ça, c'est très variable d'un livre à l'autre en fonction du sujet, il nous est proche ou un peu plus éloigné. Sur des projets juniors, en général, je mets un peu moins de temps. Mais voilà, en moyenne, à peu près un an.
Eh bien, alors, je vais vous inviter à poursuivre la discussion avec François Collet, Philibert Hume et Arnaud Dudek. Alors, François Collet, vous êtes... Donc, ça s'appelle Vivante, c'est chez Miel et Barreau. Et vous êtes sur le stand L13, donc voilà. Arnaud Dudek, donc Le Cœur arrière aux éditions Les Avrils, vous êtes sur le stand L29. Et donc, Philibert Hume, Roman Fleuve, aux Équateurs, vous êtes sur le stand L13. Merci à tous les trois. Merci vraiment de votre attention et merci à vous.
Merci beaucoup.